France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Bruno Procopio, je suis né à Juiz de Fora, dans le Minas Gerais, en 1976. Je suis claveciniste et chef d'orchestre.
La question au tout début, Bruno Procopio, de vos souvenirs premiers du Brésil, vous avez tout de suite dit « tout me manque ». Aujourd'hui, on est chez vous, en région parisienne. Vous vous sentez, vous qui êtes franco-brésilien aujourd'hui, vous vous sentez chez vous où alors? Quand vous retrouvez ces couleurs, ce vert et ce bleu, ou quand vous êtes ici dans la patrie de Rameau, c'est où?
Ah, dans la patrie de Rameau, quelle merveille. Il y a trop de choses dans ce que vous dites. J'essaie de décortiquer. Quand je vais au Brésil, je suis extrêmement critique et il faut que je fasse attention parce que la critique au Brésil, c'est quelque chose de très mal vu par contre. Ici, je me sens profondément chez moi pour des tas de choses, mais je ne suis pas chez moi. Je vis à l'étranger. Je trouve que le fait d'avoir eu des enfants ici et qu'elles sont françaises, même si elles sont trilingues, elles parlent portugais parfaitement comme espagnol, qui est la langue de sa mère. Le fait d'avoir des enfants ici, ça m'a mis en paix avec ma deuxième patrie qui est la France. Donc, je suis également français depuis 2008. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup changé en moi. J'avais l'impression que mon enfance était fabuleuse. Et que le fait d'avoir des enfants ici, il serait peut-être un peu coincé, peut-être un peu tristouné, peut-être il porterait des vêtements petit bateau. Et qu'il n'aurait pas l'envie d'avoir le pied crasseux, de nager dans des rivières en ayant peur des crocodiles et des piranhas. Et finalement, j'ai eu tort. Et je suis très content d'avoir eu tort. Et finalement, mes enfants, mes deux filles sont pluriculturelles et je ne vois aucun manque. Et elles sont épanouies. Et elles ont tout de tout. Ma grande fille de 10 ans, elle parle tout le temps des Indiens. Elle parle comme elle parle des choses d'Espagne. Donc finalement, on n'est pas obligé de s'imposer une nationalité pour avoir le mieux de toutes parts.
En fait, votre chez-vous, c'est un...
C'est un amalgame aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment génial. Là, je pense à une écrivaine française qui est Alexandra David-Neel, que je suis passionné. Elle disait que sont chez elle, quand elle prenait le passeport, elle était ailleurs. Et je la comprends parfaitement. À chaque fois que je suis à l'étranger, à chaque fois que je vois le différent, je me sens chez moi par la curiosité que j'ai envers les autres et des cultures variées. Donc je partage tout à fait cet esprit, je la comprends profondément.
Ah oui, c'est drôle cette fascination pour Alexandra David-Neel.
Ah ben, je suis passionné d'Alexandra David-Neel. Passionné. Je ne sais pas pourquoi on ne parle pas de cette femme merveilleuse qui a fait que l'Orient est présent en France. Il y a tellement de choses qui ont été traduites par elle. Enfin c'est une personnalité majeure.
Je disais qu'en plus, elle était franc-maçonne et ça, c'est quelque chose qui ne vous est pas étranger, Bruno Procopio.
Ah ben, c'est mais complètement étranger. Je ne le suis pas, bien que dans toute ma famille, ils y sont. Le mari de ma mère est une personnalité importante de la maçonnerie brésilienne. Mon arrière-grand-père était également une personnalité très important dans la maçonnerie, mais je le suis pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être mon esprit critique, libre. On n'est jamais libre, hein, mais on est toujours un peu critique. Je n'ai jamais été attiré. Donc c'est peut-être une question de rencontre, peut-être une question de loge, parce que quand on n'est pas dans la loge avec les gens qui en ont envie de côtoyer, quel intérêt?
Comment est-ce que vous décririez le caractère de votre mère ?
Je pense que j'étais plutôt influencé par ma grand-mère que par ma mère. Ma grand-mère était une personnalité, elle était journaliste à la radio, elle avait 4 heures d'émission politique par jour. Et donc, du coup, c'était une personnalité influente dans le pays. Elle était même après, par son rayonnement politique, directrice du cabinet d'un des présidents de la République, qui était de ma ville, Itamar Franco. Et donc, du coup, cette personne-là m'a beaucoup marqué. Parce que elle était très belle, donc elle était Miss de la région où elle était, et en même temps elle était très féministe et avait toute cette force de parler de politique 4 heures par jour en direct, chose qui n'était pas une évidence dans un pays où il y avait une dictature militaire.
Oui, justement, la politique, ça, on en parlait beaucoup dans votre famille. Parce que vos parents sont nés quoi, dans les années 40, du coup?
Oui, 53 et 49, oui. Non, on n'en parle pas beaucoup de politique, donc je pense qu'on ne partage aujourd'hui pas la même vision politique des choses. Donc je trouve que le Brésil, parler de politique est très compliqué parce que ce sont des réalités très différentes. Il y a une espèce de traditionnalisme issu d'une bourgeoisie un peu catholique. Tout ça mélangé avec une dictature militaire qui a duré une vingtaine d'années. On est dans la démocratie il y a très peu de temps, depuis 88, vous voyez. Donc c'est assez récent.
88, vous avez 11 ans. Le coup d'État est en 64.
C'est ça. Et
donc, comment est-ce que, justement, vos familles vivaient toute cette période-là?
Très bien. Très bien. Et je pense qu'il y a même, c'est triste de dire, une certaine nostalgie de cette époque. Et ça, ce n'est pas, évidemment, que je ne partage pas, mais que c'est un trait tout à fait commun dans un milieu qui est là, cette nostalgie de l'ordre, de l'école, de la bonne faisance, mais qui cache derrière et qui met sous le tapis des tas de choses qui sont pas glorieuses. Donc évidemment, j'ai une vision différente des choses. Je suis en France depuis 94, donc je suis un peu tombé du nid. Mais eux sont restés dans le nid.
Vous aviez l'impression quand même de trouver une langue commune quand vous retrouviez à l'âge adulte vos parents ou votre sœur.
Tout à fait, les gens ne changent pas et je pense que la relation que nous avons avec la famille, c'est quelque chose qui reste toujours très enfantin. Donc ils savent pas qui je suis. Et ça, c'est pas très grave. Donc on partage des choses qui sont tout à fait, on va dire, le noyau dur du début de notre existence commune, mais ils ne sont pas préoccupés de savoir mes opinions politiques, ou qui je suis, ou quelles sont mes aspirations, ils s'en fichent complètement. Je suis obligé de me replonger dans une relation très enfantine pour pouvoir en profiter ce qui est bon.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar.
Dans votre enfance, les grands artistes qui étaient là, que ce soit des musiciens, que ce soit des peintres, que ce soit tout art confondu, est-ce que ça fait partie aussi de vos souvenirs? C'est-à-dire, est-ce qu'on écoutait la radio? Est-ce qu'on écoutait des disques? Est-ce qu'il y avait des concerts autres que juste la musique entre soi? Ou ça, c'est quelque chose que vous avez découvert plus tard?
J'ai découvert plus tard, évidemment, la radio, j'ai écouté, parce que j'écoutais sur la table. Pratiquement tous les jours, j'allais avec ma grand-mère à la radio. Donc, des émissions de radio, j'en écoutais. Et on écoutait beaucoup une musique qui n'y a pas d'intérêt, mais qui est très importante à l'intérieur du pays. Toute la musique, ce qu'on peut appeler la musique country, mais évidemment, ça ne s'appelle pas comme ça. La musique populaire de l'intérieur du pays, qui était aussi très présente, mais aussi la samba. C'est quelque chose qui, pour moi, est très important. J'écoute la samba tous les jours. Donc, voilà. Donc, j'ai écouté beaucoup de radio. Pas du tout de musique étrangère, pas du tout de classique. Le classique était venu très tard. Donc, c'était une vraie découverte presque, je veux dire, pas d'adulte, mais d'adolescent. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et donc, ça faisait pas du tout partie de ma culture.
Et vos parents, eux, qu'est-ce qu'ils aimaient comme musique.
Et ma mère,
vous aimez la bossa nova ou la samba?
Oui, la bossa nova, vous collez à la peau. Une caipirinha à la bossa nova, et c'est parti pour 30 ans de nostalgie. Donc, évidemment, la bossa nova, ça va de soi, comme la samba. Mais ma mère écoutait beaucoup de musique classique, donc du coup, il y avait quand même quelque chose de cette culture occidentale à la maison. Mais c'était, le Brésil est un grand pays. Et la radio faisait l'unité du pays. Donc l'unité se faisait par la radio, enfin d'ailleurs comme partout ailleurs avant l'invention de la télé, je veux dire même il y a très peu de temps. Et donc du coup tous ces courants étaient là présents à l'antenne. Donc du coup je pense que le Brésil a resté un pays un peu marginal vis-à-vis des influences extérieures parce que on est l'unique pays à parler portugais dans une myriade de pays hispanophones, donc on n'a pas du tout les mêmes références. Et comme on est coupé par les frontières naturelles, que ce soit par le Pantanal d'un côté et la forêt amazonienne du nord, on regarde l'Europe. Et on regarde finalement aussi la France. Donc une certaine culture française est très présente dans un certain milieu. Par exemple, ma grand-mère, elle parlait français, comme beaucoup de gens de sa génération. Donc on avait une certaine nostalgie de cette France qu'ils ne connaissaient pas. Mais qui était là, la relation entre la France et le Brésil a commencé très tôt, enfin tellement tôt. Vous savez, en 1557, il y avait ce qu'on appelle la France Antarctique à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro était colonisé tout d'abord par les Français, donc c'est une relation très ancienne. Donc il y a quand même cette nostalgie, donc cette volonté d'aller vers la France qui n'iront jamais, mes grands-parents, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, c'était une période compliquée, c'était la dictature, et cet énorme pays avec plusieurs courants.
France Musique, les grands entretiens de Bruno Procopio.
Bruno Procopio, on a entendu toute cette enfance qui a été brossée entre le Minas Gerais et le Mato Grosso, à la fois extrêmement sauvage, en même temps enfant de médecin, de biologiste, avec aussi une grand-mère très importante, très politisée, voilà, des grandes conversations, on a le sentiment, en même temps. Et vous, cette fascination que vous avez pour cette nature quand vous êtes enfant, la forêt qui est juste là. Évidemment que Claude Lévi-Strauss est quelque part. C'est pas possible
Claude
autrement.
Claude Lévi-Strauss, il est quelque part. Il est quelque part dans sa littérature que j'ai connue ici.
Vous avez connu Lévi-Strauss ?
J'ai connu Lévi-Strauss ici en France.
L'homme ou son œuvre ?
Les deux. La littérature ici en France, elle est très peu traduite en portugais. Évidemment, Triste Tropique, Triste Tropicus, oui, mais le restant, non. Donc, j'ai eu... Dans la bibliothèque, il y a l'intégrale. Du coup, j'ai pratiquement tout lu. Je ne dirais pas que j'ai lu l'intégrale. J'écris à Claude Lévi-Strauss, au CNRS. Il m'a répondu, donc j'ai...
Quand ça, alors ?
Je ne me rappelle pas exactement. Je peux vous montrer tout à l'heure. J'ai une lettre, c'était notre premier échange par lettre. Et je l'ai côtoyé plusieurs fois. Je l'ai vu plusieurs fois... c'était quelqu'un qui, évidemment, je n'avais aucune intimité, mais qui c'est moi qui a cherché à
faire ça. Et pourquoi alors? Racontez-nous. Pour partager justement ce qu'il a pu étudier des Bororos.
Oui, peut-être ça, par la curiosité de connaître la personne qui connaissait ma culture infiniment mieux que moi-même. Donc évidemment, il était déjà dans un âge avancé, il était très content. Je lui posais des questions, mais il me posait une autre. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup écouté, j'ai plutôt répondu à ses questions. Donc c'était plutôt très sympathique, mais il n'y a pas eu vraiment des échanges humain que je puisse assouvir cette curiosité qu'il aurait pu lui-même en personne me dévoiler. Hélas, cette expérience, je ne l'ai pas eue. Mais en tout cas, j'ai fait la démarche de faire au moins sa connaissance. Peut-être j'étais en tout cas très curieux de voir ce monsieur qui connaissait le Mato Grosso, où il a commencé justement le Triste Tropique, mieux que moi.
Et donc il y avait quand même cette envie, Bruno Procopio, Oui, d'aller toujours plus loin, de connaître ses racines, même si quand vous vous êtes retourné au Mato Grosso beaucoup plus tard, vous vous êtes dit, mais comment j'ai pu adorer? Et en même temps, vous avez été fasciné et vous l'êtes encore d'une certaine façon.
Vous savez, on cherche toujours une racine qui n'existe pas ou qui existe peu. On est toujours à la recherche de son imaginaire, de sa propre culture qui est forcément construite, imagée et forcément un peu fausse. Donc si j'ai une opportunité de revenir dans des tribus Xingu, j'ai quitté tout pour passer et pour voir la fête du Kwaroup, la fête des morts, mais je n'aurai pas accès aujourd'hui. Donc on est toujours à la recherche de ça et c'est une construction qu'on l'a fait d'une manière vraie, mais aussi d'une manière très intellectuel, qui fait qu'on se construit comme ça, du vrai et du faux.
Quand vous découvrez la musique, arrivons sur le territoire musical, Bruno Procopio, vous découvrez la musique avec un piano que votre mère achète, sans raison, mais comme un appel, vous allez y trouver un terrain d'expression. Quels sont vos premiers professeurs? On est à ce moment-là revenu dans cet état historique du Brésil qu'est le Minas Gerais, c'est ça?
C'est ça. Donc c'est
comment vous commencez le piano? Tout seul,
piano,
avec
un
professeur?
Dans un conservatoire, et c'est en arrivant dans l'état de Minas Gerais, il y a toujours un grand festival de musique ancienne, et que c'est là que j'ai pu avoir accès à la musique baroque, et tout de suite c'était une vraie révélation. Révélation du timbre de cette musique que je faisais au piano, mais qui pour moi était devenue tellement une évidence au partir du moment que j'ai pu avoir accès aux instruments historiques, que c'est devenu plus qu'une passion. Ça veut dire que on ne devient pas musicien. J'ai l'impression qu'on est musicien et quand on se dit à un moment donné dans la vie, je ne peux pas faire autre chose, c'est que là on est musicien. Et là on construit sa vie avec toutes les difficultés qui est cette conclusion. Je veux être musicien. Et donc dès que j'ai eu accès au clavecin et à la musique ancienne, cette chose m'a happé. À partir de ce moment-là, j'allais à Rio de Janeiro, donc je prenais le bus toutes les semaines, parce qu'il n'y avait pas dans le Minas Gerais, donc je faisais 4 heures de bus aller pour avoir un cours de clavecin, 4 heures de bus retour, ça toutes les semaines. Et quand j'allais pas à l'État de São Paulo, qui était 12 heures aller, 12 heures retour pour un cours, je faisais minimum par semaine 24 heures de bus pour avoir de cours.
Tout seul?
Tout seul, oui, j'avais 14-15 ans, j'ai traversé... Oui, le pays pour avoir un cours.
Et alors, c'est qui ces professeurs que vous allez voir à Rio?
Donc, il y a un élève de Kenneth Gilbert, Marcelo Fagerland, qui étudie à Düsseldorf avec Kenneth Gilbert. Et Pedro Persson, donc c'était un professeur qui avait étudié au conservatoire d'Amsterdam. Donc, j'ai eu de la chance dès le début d'avoir des professeurs qui étaient très bien formés en Europe. Et j'ai surtout eu de la chance de connaître Christophe Housset à Paraty, qui, à l'âge de 15 ans, m'a fait l'invitation et qui m'a aidé dans cette démarche d'arriver en France. Donc, j'arrive à Paris, j'avais entre 16 et 17 ans.
Vous avez le sentiment que les bases qui sont posées par ces professeurs au Brésil sont les bonnes et qu'ensuite vous allez les faire fructifier avec Christophe Housset, ou bien il y aura une sorte de moment où on désapprend pour réapprendre. Comment vous voyez ce premier apprentissage?
J'ai eu l'impression que les bases ont été très solides et finalement cette phrase de Christophe Housset était très intéressante, qu'il disait « on va apprendre avec les bons musiciens qu'on joue ». Donc finalement, les bases sont là. Il y a très peu de bases qui sont vraiment utiles. Mais après, c'est les rencontres avec des gens qui jouent bien, qui ont fait la démarche de consacrer plusieurs années de leur vie à travailler et trouver finalement une veine personnelle d'une notation qui est quand même un peu simplette. On apprend à lire la musique et quand on comprend l'articulation et de quoi va la musique, c'est bien beau, mais ça, on est pas sorti d'affaire du tout. Et c'est le fait de vouloir se plonger dans une culture inexistante, voire morte, et de faire de cela une culture vivante et surtout personnelle, afin de donner son caractère personnel, il faut beaucoup d'années. Donc finalement, peut-être le grand professeur, c'est celui qui donne la liberté et qui dit « va jouer avec des gens bien, va au concert et tu feras tes impressions ». Thank you.
Alors, un beau jour, après avoir rencontré Christophe Rousset à Paraty.
À Paraty, oui.
Vous allez traverser l'Atlantique et vous allez arriver en France.
Oui.
On est en 94.
Oui.
Vous avez 16 ans,
oui.
16, 17 ans.
Oui.
Vous partez tout seul ?
Je pars tout seul, oui.
Vous habitez où ? Et comment vous vous souvenez de ce voyage ?
Oui, c'est une période très dure. Je trouve que la France est un pays extrêmement généreux par tout ce qu'il offre. Et néanmoins, Paris est une ville extrêmement dure pour accueillir. Je veux dire, la solitude est quelque chose que j'ai découvert ici. Et c'était très difficile. Néanmoins, j'étais bien accueilli par quelques amis de famille qui étaient là. Et tout de suite après, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est le fait d'être à la cité universitaire. J'ai pu connaître des gens de toutes parts. Et ça donnait un peu de chaleur à cette vie quotidienne qui était un peu, en dehors des études, un peu tristounette.
Quand vous arrivez en France, vous ne rentrez pas tout de suite au CNSM, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse. Voilà. Vous êtes d'abord au CRR, élève de Noël Spier.
Exactement. Donc, j'ai fait le concours d'entrée au CNSM dès que je suis arrivé et j'étais première nommée. Et après, il y avait une épreuve comme ça pour savoir connaître mon niveau de basse continue. Et donc, j'ai dit de basse quoi? De basse continue. J'ai dit, bon, non, je sais pas ce que c'est. Donc, Kenneth Gilbert, il a passé un petit coup de fil à Noël Spitt, ce qui m'a fait passer en extrémis du jour au lendemain le concours d'entrée au CRR de Paris. Et j'étais accueilli par Noël Spitt dans sa classe pendant les quelques années pour la répréparation, enfin, pour la préparation de ces autres cours qui m'ont permis par la suite de rentrer au CNSM.
Et alors, quel était son univers à elle? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Parce qu'il y a toujours cette lignée, hein, oui. Huguette Dreyfus, Kenneth Gilbert.
Oui. Dreyfus était un peu la mère de tous les clavecinistes français. Je l'ai connue, mais en fait, elle était déjà à la retraite. Donc, Noël Spitt, c'était une très, très bonne professeure, très rigoureuse. Elle m'a appris, peut-être la chose que je retiens de Noël Spitt, c'était la rigueur, le fait, bon, maintenant, il faut travailler, quoi, il faut faire ceci, il faut faire cela, d'une manière extrêmement pragmatique. Et ça, pour moi, n'était pas naturel. Peut-être j'étais plus nonchalant que je suis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas nonchalant, justement. Et à l'époque, j'ai beaucoup souffert ces années avec elle, parce que il fallait vraiment travailler, une espèce de rigueur comme ça, que j'estimais un peu raide, mais qui finalement était très, très positif. Donc je remercie beaucoup cette exigence des choses, que je ne connaissais pas.
Et c'était quoi? C'était en termes d'analyse, de technique
D'analyse, de technique, de jouer correctement, de bien s'asseoir, de faire ce qu'il faut faire. Enfin, être au conservatoire. Enfin, ce n'était pas parce que je prenais des cours à droite et à gauche au Brésil en faisant 12 heures de bus que j'étais formaté pour être dans un conservatoire à Paris. Donc, elle m'a appris un peu à devenir un peu le bon élève, en quelque sorte. Je ne sais pas si être bon élève, c'est quelque chose de positif, mais c'est quelque chose de positif pour être bien accepté dans cette société. Donc, finalement, c'était très bien.
Et là, vous faites des rencontres d'apprentis, comme vous, musiciens, des camarades?
Ah bah, à CRR de Paris, c'était pas... non, il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui partaient. C'était une maison un peu vide à l'époque. Aujourd'hui, c'est un conservatoire beaucoup plus sympathique. Je dirais que le réseau d'amitié, il s'est fait plutôt au CNSM. Le fait d'avoir une cantine, le fait de... On traîne au conservatoire, enfin, on est là toute la journée. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qu'on a fait à l'époque du conservatoire.
Alors, vous entrez au CNSM,
oui.
Et à ce moment-là, vous entrez dans la classe de Christophe Rousset.
Christophe reste pour moi une personne que je tiens à remercier un peu tous les jours, il ne le sait pas, mais si je suis dévot d'un saint, c'est plutôt Saint Christophe, parce qu'il m'a permis de faire ce que j'ai aimé faire, et il m'a donné des bases très solides. Il m'a montré un peu le nord, comme ça, viens par là, je vais te donner un coup de main, mais finalement, je l'ai vu très peu. Parce que tout de suite après, il est parti et c'était Pierre Antaille, d'une manière officielle, qui a pris la classe.
Les cascades de François Duval par le Richard Carconsort avec François Fernandez, Philippe Pierlot et Pierre Antaille pour refermer ce deuxième épisode des grands entretiens avec Bruno Procopio. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Marie-Christine Ferdinand. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.